Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, les mauvaises conditions d'hébergement ont coûté la vie à 820 déplacés de guerre en l'espace de 2 ans dans les sites installés autour de la ville de Goma au Nord Kivu. Le président du comité des déplacés de Kanyaruchinya, qui tire la sonnette d'alarme, plaide pour la fin de cette hémorragie. Pas de courant aujourd'hui dans une bonne partie de la ville de Kisangani. À la base, la réduction sensible de la capacité de production de la centrale après la crue de la rivière Tchopo. Notre invitée, c'est la coordonnatrice du programme American Space du département d'État américain. Huguette Kessa parle de la sensibilisation des jeunes de la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika aux prochaines élections. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, au moins 820 déplacés de guerre sont décédés en l'espace de 2 ans suite aux mauvaises conditions de vie dans les différents sites autour de la ville de Goma. L'alerte est sonnée par le président du comité de déplacés de Kanyaruchinya. Théo Moussekoura appelle le gouvernement central et les principaux acteurs humanitaires à stopper cette hémorragie. Le point de la situation avec vous, Sifa Magourou.
3-1-0 les bons. Théo Moussekoura, président des déplacés de Kanyaruchinya, affirme que la situation est préoccupante dans la mesure où les déplacés meurent chaque jour à cause des maladies, la famine, les accidents et autres. Il lance un SOS aux autorités afin que ces personnes regagnent rapidement leur village d'origine. Pour sa part, le médecin responsable de la zone de santé de Kanyaruchinya reconnaît également cette situation. Thierry Touhano explique que l'insuffisance de l'aide alimentaire, les intempéries et les conditions d'hébergement amènent ces déplacés à développer des maladies, entre autres la malnutrition, les choléras, les infections et autres, ce qui occasionne des décès en cascade parmi les déplacés. Ce responsable sanitaire note également la criminalité élevée autour des camps de déplacés. Dès la mi-novembre à nos jours, au moins 42 personnes, y compris les déplacés, ont trouvé la mort à cause de l'insécurité autour des camps, affirme-t-il. Goma, Sifa Magourou, Radio Okapi.
Nord Kivu, encore 1300 ménages de déplacés de guerre vivent sans assistance dans la localité de Kainama. Ils ont fui récemment les attaques des rebelles ougandais de l'EDF dans les localités voisines de Batonga et Tongoli. Certains sont hébergés dans des salles des classes et des églises, d'autres sont dans des familles d'accueil. Le président de la société civile de Banande Kainama affirme à Radio Kapi que ces déplacés n'ont pas accès à leur champ. Jonas Zawadi a été joint par Marc Marofimo.
Ils sont là, toujours sans assistance. Ils sont là, ils continuent toujours à souffrir. La terre est déjà alertée à tous les niveaux, même voir les gens de l'OTA, ainsi que partout, donc d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le gouvernement. Bon, mais, donc ici, chez nous, vraiment, on n'intervient pas, même s'il y a des cas graves, même s'il y a des problèmes vraiment, on n'a pas l'habitude d'intervenir. Alors, on visait la fois passée que non, suite à l'impraticabilité de la route, c'est raison pour laquelle on ne vient pas intervenir. Mais actuellement, la route est déjà praticable, mais nous n'avons vu aucune réaction du gouvernement, même d'une organisation non gouvernementale. Alors, bon, nous continuons toujours à subir de telles conséquences. La population est en train de souffrir sur tous les plans, en matière de l'eau, assistance et toute autre chose, vraiment. Ça ne va pas ici, donc, au sud. Pourtant, entrer aussi dans les faits faux, il y a les opérations conjointes qui se déroulent là-bas. Vraiment, c'est un problème sérieux auquel nous sommes en train de nous heurter ici à Kainam.
Non loin de là, au sud Kivu, plus de 170 enfants ont été retirés des groupes armés encore actifs dans les territoires de Calais. C'est le résultat des efforts consentis par le PDDRCS et ses principaux partenaires. Ces enfants attendent actuellement leur réinsertion communautaire suivie d'une prise en charge holistique. À Bukavu, la correspondance de Rachel Kessembangou.
Les 172 enfants sont retirés des groupes armés Raia Mutombo Kikiriko, Butachibera et Bibilo. Parmi eux, 127 garçons et 45 filles. La procédure de leur certification est intervenue au cours d'une mission conjointe PDD-RCS et les différentes agences de protection de droits de l'enfant. C'est notamment le service de la 33e région militaire, la division des affaires sociales ainsi que d'autres organisations comme le BVS, Bureau de volontariat pour l'enfance et la santé. Des sources du PDD-RCS indique que ces enfants, ainsi retirés des rangs des groupes armés sont placés dans des familles d'accueil transitoires pour une prise en charge holistique et leur réinsertion communautaire. Les mêmes acteurs poursuivent avec la sensibilisation auprès des groupes armés encore actifs au Sud Kivu pour sortir tous les enfants associés à ces groupes armés. Signalons que ces activités bénéficient de l'appui de l'UNICEF. Rachel Kessé, Bukavu, Radio Okapi.
Politique à présent, en campagne électorale à Kindu où il est arrivé cet après-midi, le cortège de Moïse Katumbi-Tchapwe a été attaqué par des jeunes présentés comme appartenant à l'UDPS. Le bilan de l'incident fait état des morts et de blessés du côté d'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi a tout de même tenu son meeting à l'espace Mapon en face de l'Assemblée provinciale du Maniema. Le récit de Florence Kizalunga.
Ce bilan est confirmé par l'autorité urbaine. Le maire parle d'un mort du côté de Ensemble pour la République et de blessés des deux côtés. Ces altercations entre les supporters de Moïse Katumbi et les jeunes appartenant à l'IDPS ont débuté devant la résidence officielle du gouverneur et la victime a été tuée aux environs du rond-point Place Joseph Kabila, communément appelé au rond-point du cinquantenaire. Toutefois, le candidat numéro 3 à la présidentielle a réussi à tenir son meeting devant une foule immense venue l'écouter. Moïse Katumbi Tchapwe a annoncé le désistement de Salomon Idz Kalonda à la députation nationale en faveur de Matata Ponyo et le désistement de Matata Ponyo à la députation provinciale au profit de Salomon Idz Kalonda de la. Katumbi a appelé la population du Maniema à opérer un choix judicieux le 20 décembre au moment du vote pour, dit-il, mettre fin à ce scénario de tuerie à tout moment et espérer au développement de la province. Par là des incidents, Moïse Katumbi accuse le gouverneur intérimaire du Maniema et l'UDPS d'en être les auteurs. Accusation rejetée par Afani Drissa. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Campagne électorale toujours, le candidat président numéro 15 à la présidentielle de décembre prochain, le docteur Denis Mukwege, était, lui, à Beni, au Nord Kivu, cet avant-midi. Dans son adresse, le prix Nobel de la paix a salué la résilience de la population victime des affres de la guerre avant de présenter son projet de société axé sur la sécurité, le développement, la lutte contre la pauvreté et la corruption. Denis Mukwege revenait de la ville voisine de Butembo où il a tenu un autre meeting. Quant à lui, Martin Fayulu Madidi est arrivé ce même mardi à Beni. Le leader de l'ECID venait d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Pour sa part, le candidat président Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi à Bunia en provenance de Bumba dans la province de la Mongala. Et puis, le candidat président Constant Mutamba a quitté ce mardi la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, pour regagner Kinshasa après avoir été bloqué pendant 24 heures faute d'avion. Autre nouvelle sur Radio Okapi, 80% des quartiers de la ville de Kisangani sont dans les noirs depuis hier. À la base, la réduction de la capacité de production de la centrale suite à la crue de la rivière Tchopo. Cette production est passée de 12 à 2 mégawatts. La SNEL est obligée d'intensifier le délestage en privilégiant la desserte de l'électricité aux endroits stratégiques de la ville. Pour en parler, retrouvons à Kisangani Jacques Mkonkole.
Cette crue qui affecte environ 4 territoires de la Tchopo Tchopo n'épargne nullement la ville de Kisangani. La montée des eaux de la rivière Tchopo met en danger le fonctionnement de la centrale hydroélectrique dont la capacité de production est réduite de 85%, déclare Alphonse Kitambala, son directeur régional. Selon lui, la centrale est en état d'alerte maximale.
Compte tenu de la montée exceptionnelle de la rivière Tchopo, nous sommes maintenant à 2 mégawatts. L'ITT, ce mur ici, qui a été construit en 2020, aujourd'hui, on assisterait à l'inondation de la centrale et toute la ville serait plongée dans les noirs.
Le manque d'électricité paralyse déjà les activités économiques dans plusieurs quartiers de la ville de Kisangani, affectés par le délestage. C'est le cas des moulins de manioc et maïs, comme en témoigne ce garçon.
Ma maman, elle est vendeuse du foufou et nous vivons avec ça. Ça fait 3 jours qu'il n'y va pas. Le moulin, ça marche pas. Il n'y a pas du courant ici.
Par ailleurs, la SNEL a réceptionné la semaine dernière de la part du gouvernement central un lot important de matériel pour l'assainissement de son réseau de distribution. Le début des travaux ne sera effectif qu'après la décrue, précise Alphonse Kitambala. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la hausse de prix de produits alimentaires sur le marché de la ville de Mbujimayi. La mesurette de maïs de 3,5 kg actuellement coûte 10 à 11 000 francs francs congolais alors qu'elle se vendait la semaine dernière à 6 000 francs congolais. Les prix du sucre, du sel et du savon ont également pris l'ascenseur. La Fédération des entreprises du Congo FEC parle des difficultés pour acheminer les produits alimentaires et la spéculation à l'approche des festivités de fin d'année 2023. Mboujimaï, Esther Ndalafina.
La mesurette de maïs de 3,5 kg se vend actuellement entre 10 000 et 11 000 francs congolais. Cependant, la même mesurette a coûté 6 000 francs congolais la semaine dernière. Quelques femmes rencontrées affirment que cette hausse a un impact sensible sur le panier de la ménagère.
Le mercat de maïs coûtait 5 000 francs, mais pour le moment, c'est à 10 000 francs. Les autres, 9 000, d'autres à 10 000 francs. Le verre de sel à 600 francs, donc presque tout a haussé.
Le maïs, maintenant, on a monté à 10 000. 12 000 feuilles de sucre, c'est à 700 francs. Maintenant, on achète à 1 200.
À la Fédération des entreprises du Congo, FEC, trois facteurs occasionnent cette montée vertigineuse des prix des produits alimentaires en Mboujimaï. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Ces produits de première nécessité viennent d'ailleurs. En cette période de pluie, nous avons le problème d'acheminement qui se pose. Et quand aujourd'hui nous voyons les variations du taux des dollars sur le marché, ça impacte également sur le prix de consommation. Occulter le fait que nous tendons vers le fait, et là, d'une manière générale, les prix vers le centre ont toujours tendance à augmenter.
Signalons que cette hausse affecte aussi les chiffres d'affaires des petits commerçants. Esther Ndalafina, Mboujimaï, Radio Okapi.
Coup d'envoi hier du montage d'un pont métallique sur l'ancienne structure endommagée par les eaux des pluies à Kalimabenge dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Les travaux sont exécutés par des techniciens de l'office de route. L'ingénieur de Ongongo affirme qu'en l'espace d'une semaine, ils seront en mesure de rétablir le trafic. Il est au micro de Fistongo Mamayabala.
Ce pont a son modèle de montage que nous sommes en train de faire. Petit à petit, vous allez constater ce qui s'est fait. S'il fallait songer à une déviation, ça allait prendre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Comme il y avait déjà cette disponibilité de ces ponts, ça peut aussi nous prendre moins de temps. C'est pour cela que nous sommes venus, on nous a dépêchés pour qu'on puisse vraiment jeter ces ponts pour que dans le bref délai, qu'il y ait rétablissement du trafic. Sauf imprévu, nous projetons pour une semaine. Pendant la journée, nous travaillons avec la population. On évolue petit à petit. Et pendant la nuit, quand il n'y aura plus de circulation, nous allons encore beaucoup bosser. Juste après les travaux, nous allons placer une pancarte pour vous déterminer le tonnage limite de ces ponts. Parce que si vous passez avec 200 tonnes, ça peut être compliqué.
Santé à présent. Une équipe du programme élargi de vaccination Kinshasa séjourne actuellement en Mboujimaï pour former les professionnels de santé sur l'intégration du coronavirus dans la vaccination de routine. Le chef des divisions provinciales de la santé publique affirme que ce vaccin sera administré à chaque vaccination dans 317 centres de santé du Kasaï oriental. Docteur Bonheur Chitekou s'est confié à Esther Ndalafina.
C'est vrai, nous avions déjà commencé cette intégration. Il y a eu des sites de vaccination qui ont été installés dans les 19 zones de santé avec l'appui de nos différents partenaires, notamment OMS, UNICEF, MRoit, ProSani. Mais cela ne prenait pas toutes les structures de nos zones de santé. Or, la vaccination de routine se retrouve dans toutes nos structures sanitaires. Et ici, pour COVID, on avait sélectionné quelques structures qui avaient plus de fréquentation. C'est déjà officiel, de sorte que à chaque séance de vaccination, tous ceux-là qui n'ont pas encore bénéficié le vaccin contre le COVID, ils sont invités à se présenter au niveau des structures sanitaires pour être vaccinés. Toute personne âgée de 12 ans et plus qui doit bénéficier de ces vaccins. Nous avons beaucoup plus les Johnson & Johnson qui va être disponible dans nos 317 centres de santé. Les pays a jugé bon de rendre disponible dans un premier temps les Johnson & Johnson.
Actualité internationale.
Les affrontements qui ont fait une vingtaine de morts dimanche après-midi à Freetown, la capitale sierra-léonaise, ont été causés par une tentative avortée de coup d'État. Déclaration faite ce mardi après-midi par le ministre de l'Information qui parlait d'une tentative visant à renverser le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone. Et puis la commissaire européenne aux affaires intérieures, Madame Ylva Johansson, s'est déclarée cet après-midi très préoccupée par l'abrogation par le régime militaire nigérien d'une loi criminalisant le trafic des migrants dans ce pays. Elle redoute que cela cause des décès des migrants dans le désert. La Suédoise a ajouté que cette situation risque de pousser plus de migrants à se rendre en Libye et tenter de traverser la Méditerranée vers l'Union européenne.
L'invité.
Notre invitée, c'est la coordonnatrice du programme dénommé American Peace du département d'État américain. Huguette Kessa parlait de la sensibilisation des jeunes de la ville de Calémie aux prochaines élections. Cette sensibilisation est financée par l'ambassade américaine. Elle s'entretient avec Paul Mounanga.
Madame Huguette Kessa, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin.
Vous dirigez un programme de sensibilisation des jeunes aux droits civiques et électoraux. C'est quoi tout d'abord ce programme-là?
Notre programme, c'est la sensibilisation, comme vous l'avez dit, des jeunes aux droits civiques et électoraux. Notre objectif, c'est la participation massive des jeunes aux élections de décembre 2023.
Et pourquoi vous avez voulu sensibiliser les jeunes à participer massivement aux prochaines élections?
Vu les statistiques des années précédentes, 2006, 2011 et 2018, le taux de participation des jeunes était vraiment faible. Et c'est comme ça, avec l'appui du gouvernement américain via son espace American Space, ils ont voulu quand même nous donner un coup de main pour la réussite des élections de décembre de cette année.
Sur le terrain, comment se passe cette sensibilisation?
En majeure des parties, le message est bien reçu par les participants ou les sensibilisés. Et comme vous le savez, c'est le terrain, il manque toujours pas des petites difficultés, mais on arrive quand même à faire comprendre aux participants nos objectifs et notre intention.
Et le message que vous apportez lorsque vous sensibilisez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là?
En fait, on leur fait voir que aller voter, c'est un droit pour tous les patriotes du pays. Quand même, il y a eu des questions-réponses. On demande aux jeunes pourquoi vous êtes partis vous faire enrôler. Ils veulent juste avoir la carte. Alors nous, on veut enlever cette idée dans la tête des jeunes. Non, on ne s'enrôle pas pour avoir la carte, mais c'est un droit civique que nous devons acheminer jusqu'au bout en allant voter. Et on essaie un peu juste de leur faire voir ces petits points. Et quand ils nous demandent comment savoir que c'est le bon candidat, on lui donne juste certains petits critères de savoir si celui-ci c'est un bon ou un mauvais. Mais on n'est pas là pour faire la campagne. Peu importe les candidats, on n'est pas dans la campagne électorale. Nous, on sensibilise les jeunes à aller voter.
Est-ce qu'on peut savoir aussi quels sont les critères d'un bon candidat?
D'accord. Pour les bons candidats, d'abord, il doit être spécifique dans ce qu'il est en train de faire. Quelle est son expérience personnelle? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé dans plusieurs domaines et qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il doit être tout chiffré par rapport à ce qu'il est en train de nous présenter, quantifier son programme, est-ce que ce qu'il nous promet, d'où viendra cet argent-là qu'il est en train de nous promettre? Et son programme ou ses projets doivent être réalisables. Il nous promet quelque chose sur 5 ans. Est-ce que ce qu'il va nous promettre, c'est vraiment réalisable sur 5 ans? Ce sont des questions que nous devons nous poser. On tient compte du timing, ce qu'il va nous poser. Bon, je vais vous construire des routes. Par exemple, est-ce que ces routes-là, il va le faire dans les 5 ans? Est-ce que c'est possible? Bon, s'il promet, nous trouverons que ce qu'il nous promet, c'est réalisable dans les 5 ans. Moi, je vois si un candidat présente 2 ou 3 critères qui sont déjà bons, je pense que ça pourra aider nos jeunes à faire de bons choix.
Et les critères pour un mauvais candidat?
C'est un menteur déjà au début, il trompe. Donc, il donne des informations mensongères ou douteuses. Donc, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Peut-être il cherche à dire ce que les gens veulent entendre. Et nous savons déjà que des fois, il y a certaines personnes qui aiment entendre ça, mais quand on analyse dans les faits, on se rend compte que la personne est en train de nous mentir. Et il y a d'autres, quand il est en train de parler, vous sentez qu'il y a la haine. Il utilise les insultes sur les autres candidats ou des propos haineux, hein, peut-être relever le tribalisme dans les gens, tout ça. Ce sont des critères de mauvais candidats. Il y a d'autres candidats qui sont superficiels. Donc, soyez spécifique dans ce que vous êtes en train de faire. Et quelqu'un qui est ignorant, il ne maîtrise pas son sujet, c'est aussi un mauvais candidat. Donc, ce sont ces petits critères-là, pour ne dire que ça, qui nous poussent quand même à montrer aux jeunes. Maintenant, c'est à eux d'analyser. Déjà, notre objectif, c'est qu'il aille voter, mais qu'il aille aussi bien voter.
Comment réagissent ces jeunes qui sont sensibilisés?
La majeure partie, comme je l'ai dit au début, ils réagissent bien. Ils nous encouragent que c'est un programme. Ils avaient vraiment besoin de ce programme-là parce qu'au début, ils étaient dans l'ignorance totale. Ils pouvaient choisir des candidats par rapport au lien qui les lie. Soit c'est un frère, soit c'est un cousin. Mais actuellement, même si c'est un frère ou un cousin, il doit nous proposer des projets qui nous convainquent et que nous savons que quand il va aller là-bas, il va faire quelque chose qu'il faut. Donc, il y a quand même la majorité des jeunes qui disent ça et c'est le bon côté des choses. Mais il manque pas aussi ceux qui viennent quand ils vous voient, non, est-ce que vous nous donnez des t-shirts, des polos, pourquoi vous nous enregistrez, qu'est-ce que vous allez faire avec les noms? Mais on essaie juste de leur rassurer qu'on ne va rien faire, c'est juste pour nous aider à quantifier les gens que nous avons sensibilisés.
Madame Huguette Kessa, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Paulin.
C'était l'invité de Radio Capi, la coordonnatrice du programme dénommé American Spice du département d'État américain, Huguette Kessa, interrogée à Kalimi par Paul Emunanga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.